Alors, je suis plutôt un historien des sciences, c'est-à-dire que je suis spécialiste de l'histoire de l'astronomie, et pas de toute l'astronomie. Je suis plutôt spécialisé pour tout ce qui est théorie planétaire et tout ce qui est instrument de la mesure du temps. Voilà. C'est plutôt ma spécialité en astronomie et en histoire des sciences. Alors, en général, on ne travaille plus tout seul dans son coin. C'est forcément un travail d'équipe et pour moi, c'est ce qui fait le grand plaisir de l'histoire des sciences. Par exemple, si je parle de l'ouvrage de Copernic, le De Rebus Sionibus, c'est 40 ans de travail. C'est un travail d'équipe où il a fallu associer des spécialistes de l'histoire des textes, des philologues, des gens qui connaissent l'astronomie, les mathématiques. Donc c'est un travail collaboratif parce qu'un historien des sciences aujourd'hui n'est pas omniscient. Il n'y en a plus aujourd'hui, si vous voulez, quelqu'un qui connaît, qui peut embraser l'ensemble d'une discipline. Et quand on étudie des textes, et il faut être à plusieurs. Et l'autre particularité, c'est qu'un historien des sciences aujourd'hui, il a un rôle essentiel dans la diffusion des connaissances. Il ne va pas rester dans son laboratoire, pas que dans les revues de très haut niveau. Il a un devoir, entre guillemets, de vulgariser l'histoire des sciences auprès à la fois des élèves et auprès du grand public. Et rendre passionnant la compréhension des idées dans toutes les disciplines scientifiques. En fait, dans ma carrière, j'ai eu trois maîtres. Trois maîtres. J'en ai eu un, quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Lui avait plus d'un demi-siècle que moi. Il était né en 1910. Et cet homme, c'était Robert Sagot. C'est lui qui m'a donné l'envie de m'intéresser vraiment à l'astronomie, et en particulier à la gnomonique. C'était mon maître en gnomonique. Grâce à lui, j'ai rencontré un deuxième maître, Bruno Morando, qui était astronome, qui était directeur du bureau des longitudes et qui m'a vraiment appris l'astronomie finement et tout ce qui concerne la mécanique céleste et l'astronomie fondamentale. Et grâce à Bruno Morando, enfin, j'ai mon troisième maître qui était Alain Segond et c'est lui qui m'a vraiment formé à l'histoire des sciences, à la critique textuelle et à la compréhension de l'astronomie de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'était des hommes absolument exceptionnels qui étaient tous très différents intellectuellement, de par leur formation, mais d'une érudition quasiment illimitée, illimitée, d'une très grande générosité intellectuelle, et des gens comme vous et moi, facilement approchables, pas du tout dans leur tour d'ivoire, assez méprisants et hautains comme on peut en voir chez certains, des gens vraiment d'une gentillesse et d'une générosité que je regrette, car évidemment aujourd'hui ils ont disparu malheureusement, et on se sent toujours un peu en fait orphelin face à ces maîtres. Et c'était vraiment déterminant, c'était le hasard en quelque sorte. Et j'ai beaucoup appris, j'en redois tout ce que je sais bien sûr. Je pense qu'un jour d'ailleurs, on devient un maître, si vous voulez, quand on n'a plus de maître. En ce sens, je l'ai dit, orphelin. Et c'est pas toujours évident de vivre cette disparition parce que on n'a plus de filet, si vous voulez. Et un jour, on vous dit, mais c'est vous le maître. Et ça fait bizarre. Et l'autre particularité, si je l'ajoute, c'était non seulement des savants d'une érudition incroyable, c'était des gens très modestes, une grande modestie, et qui avaient une pensée un petit peu hétérodoxe, qui était en dehors des chemins battus, qui n'était pas forcément dans le système universitaire, et qui étaient très attachés à la transmission de leur savoir pour que ça ne se perde pas, d'avoir un successeur en quelque sorte. Je crois que j'étais pas fait pour le système scolaire. Je crois que j'étais plutôt fait pour une relation maître-élève. Ça a très bien fonctionné avec moi. J'ai appris énormément de ces gens-là dans tous les domaines et j'estime que j'ai eu énormément de chance de les croiser dans ma vie. Des sciences,
Du 20e
je ne vais pas
siècle.
citer ceux qui sont vivants, parce que ça va faire des jaloux. Des grands des sciences du 20e siècle, alors pour moi un des plus... Alors c'était des Français quand même, il y a eu Delambre, fin 18e, début 19e siècle, Jean-Baptiste Lambre, immense historien des sciences, qui était professeur de latin grec jusqu'à 36 ans, et qui s'est lancé dans l'astronomie, et qui était devenu membre de l'Académie, membre du Bureau de longitude, et qui a publié une somme considérable en histoire de l'astronomie. Il y a eu un déclin après Delambre, en histoire des sciences en France. Hein. On a eu quand même Alexandre Coiré, grand historien des sciences français, René Tatton, qui a publié deux volumes remarquables sur l'histoire des sciences dans toutes les disciplines. Du point de vue mondial, je pense qu'un des plus grands historiens des sciences du XXe siècle était autrichien et ensuite américain, c'était Otto Neugebauer, immense savant, comme on n'en fera plus, qui connaissait aussi bien le babylonien, le grec, le latin, l'égyptien, qui a fait faire des progrès, mais stratosphériques, en fait, à l'histoire de l'astronomie et à l'histoire des mathématiques. Et puis, pour parler comme d'un grand historien des sciences, un grand monsieur vivant aujourd'hui, en mathématiques, c'est Rojdi Rached, que je connais aussi très bien, et qui, lui, est plutôt dans la partie mathématique, et puis celui qui fut mon maître, donc Alain Segond, qui était plutôt un spécialiste du néoplatonisme et de l'astronomie de la Renaissance. Voilà, des gens qui ont fait vraiment progresser le savoir et la diffusion également du savoir autour d'eux, et qui ont beaucoup apporté à l'histoire et à la science en même temps. Car ils avaient cette particularité d'être à la fois des historiens et en même temps des scientifiques.
Polyglotte aussi.
Alors, Alain Segond, alors c'est le cas de Rojdi Rached évidemment, c'est le cas de Neugebauer, Alain Segond lisait le grec et le latin dans le texte, et un jour il était à côté de moi en train de lire du grec dans un texte, je crois que c'était du galien, c'était un texte de galien, et je lui dis mais tu n'as pas besoin, tu ne prends pas le dictionnaire. Il me dit mais pourquoi faire? Mais ça m'a déprimé, parce que je me suis dit, oh là là, j'y arriverai jamais, parce que pour faire de l'histoire des sciences, il faut quand même faire du latin, faire des langues anciennes, faire du grec. Alors certains après se spécialisent dans le syriaque, dans le cunéiforme, mais faire de l'histoire des sciences, surtout ancienne, ça nécessite évidemment d'avoir une connaissance précise, parce qu'on va éditer des textes, on va travailler sur des textes. C'est ça l'histoire des sciences, hein. C'est pas faire du recopiage de ce qu'il y a dans Wikipédia ou dans l'Encyclopédie Universalis. Comment travailler sur des textes de l'époque et comprendre leur transmission, et c'est pas toujours facile. Donc ça demande une érudition absolument incroyable, et je suis béat d'admiration devant tous les savants que je viens de citer. Je ne leur arriverai jamais à la cheville d'ailleurs, hein. J'en suis intimement persuadé. Rien. Alors, pour les jeunes qui veulent faire de l'histoire des sciences en astronomie, il est indispensable de connaître bien l'astronomie d'aujourd'hui, l'astronomie contemporaine, et pas la survoler. C'est-à-dire qu'il faut faire des mathématiques. C'est ce que dit Copernic sur la page de titre du De Revolutionibus, hein, cet adage platonicien, que nul ignorant la géométrie n'entre ici. C'est-à-dire que vous pouvez faire de l'astronomie que si vous faites vraiment des mathématiques. Sinon, vous allez faire de l'épistémologie, de la philosophie, ça va donner de la glose, vous allez gloser à l'infini, ça ne donne pas grand-chose, hein, tout ça. Hein. Si vous voulez vraiment comprendre les idées, les textes antiques, les ruptures, l'héliocentrisme, le géocentrisme, l'apport de chaque civilisation à l'astronomie, il est indispensable que vous ayez déjà une formation scientifique et que parallèlement, vous ayez une formation, on va dire, plus littéraire, que vous sachiez ce que c'est que l'histoire. Et qu'est-ce que c'est que l'étude textuelle? Qu'est-ce que c'est que la philologie? Comment on passe d'un manuscrit à un texte édité? Comment se sont transmis ces textes? Et qu'on puisse ensuite ne pas avoir peur lorsqu'on a un texte scientifique devant soi. Je connais chez les collègues qui sont des philosophes ou qui se prétendent historiens des sciences, et dès qu'ils voient sinus cosinus, ils disent « Ouh là là, je vais passer à autre chose ». Et du coup, ils se spécialisent dans des périodes de l'histoire où ils font... que de la philosophie des sciences. Or, la philosophie des sciences n'est pas l'histoire des sciences. L'histoire des sciences, c'est vraiment la transmission des idées, du savoir, et c'est l'histoire de sa discipline. Et pour comprendre aujourd'hui l'astronomie du XXIe siècle, il me paraît quasi indispensable d'avoir, au moins, de savoir tracer les grandes étapes de l'astronomie depuis les Babyloniens jusqu'à maintenant. comprendre comment, ce qu'on a compris, le concept de galaxie, d'univers-île, comment, quand est-ce qu'on a compris qu'une étoile, c'était un soleil, qui mettait sa propre lumière, comment on a compris que la Terre n'occupait pas le centre du monde ni de la Voie lactée, quels sont les premiers instruments d'astronomie, comment est-ce qu'on a pu déterminer la latitude de l'Antiquité. Tout ça, ce n'est pas l'histoire des sciences qu'on comprend. Et je pense que ça devrait être obligatoire, entre guillemets, qu'on enseigne un petit peu l'histoire des sciences dans les mathématiques, dans la physique et dans l'astronomie. Ça rendrait ces disciplines moins austères. Alors, l'astronomie d'amateur, en fait, elle naît au XIXe siècle, et c'est une des rares disciplines qu'on peut pratiquer chez soi ou dans un club. Il ne faut pas rester isolé, il ne faut pas rester comme Copernic dans son coin. Ça donne beaucoup de plaisir de pratiquer l'astronomie en tant qu'amateur, et ça fait progresser également l'astronomie professionnelle. Pendant longtemps, par exemple, on avait ce qu'on appelle les variabilistes. Il n'y a plus aucun astronome professionnel aujourd'hui qui s'intéresse quasiment aux étoiles variables. Pendant très longtemps aussi, on avait beaucoup d'astronomes amateurs qui s'intéressaient aux mesures d'étoiles doubles, parce que c'est ce qui permet de déterminer les masses d'étoiles. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus personne qui s'occupe de ça. Alors qu'on a encore des amateurs qui sont ce qu'on appelle des duplicistes, des variabilistes, d'autres qui s'occupent, comme moi, de gnomonique, d'autres qui s'occupent de cosmologie. Alors, ils le diffusent auprès des publics, auprès des élèves, ce que les astronomes professionnels n'ont pas toujours le temps et le talent pour certains de faire. Et donc, il y a une interaction forte entre l'astronomie professionnelle et l'astronomie d'amateur. Et beaucoup de mes collègues sont très attachés à diffuser leurs connaissances et ont beaucoup de plaisir à être avec des astronomes amateurs. Et beaucoup d'aujourd'hui d'astronomes professionnels ont commencé en tant qu'amateur. Je pense que commencer l'astronomie en tant qu'amateur, ça peut devenir une passion, mais ça peut susciter également des vocations et se dire « je veux que ma vie soit consacrée à l'étude du ciel ». Et moi, je l'ai fait comme ça. Je tombais par hasard dans l'astronomie quand j'avais 16 ans, dans un camp d'astronomie. C'est pas une colonie de vacances, mais c'était un peu ça. Alors que quand j'étais jeune, je voulais pas du tout faire l'astronomie. Je me disais « oh là là, ça doit être compliqué tout ça, j'y comprends rien. » Et donc, je suis tombé par hasard là-dedans. Et puis, ben voilà, les hasards de la vie font que ça a été, en fait, mon métier. Et j'encourage vivement tous les jeunes à avoir une passion. Parce que ça procure un immense plaisir. Ça permet de rencontrer des gens incroyables. Et ça permet de s'élever. Ça permet de s'élever intellectuellement, d'acquérir un savoir que beaucoup de gens n'ont pas, et de regarder la vie, la société, et de ne pas être inutile. Et je pense que ça permet aussi d'être moins vaniteux, ce que devraient faire beaucoup de nos hommes politiques. C'est regarder dans un télescope la planète Saturne, les cratères lunaires ou une nébuleuse planétaire. Et alors, s'ils ont compris ce que c'est, je pense qu'ils comprendront qu'on n'est vraiment rien et qu'on doit tout faire pour profiter de la vie, avoir une vision épicurienne de la vie, protéger notre planète et avoir foi dans l'humanité qui, quand même, malgré tous ces chaos, quand même avance vers la connaissance. Et c'est grâce à la science, comme disait Camille Flammarion, ad veritatem per scientiam, à la vérité par la science. Et je pense que ça peut être une bonne motivation et un bon objectif dans la vie de faire de l'astronomie.
Qui était, lui, Camille Flammarion, non pas astronome professionnel, mais oui, un véritable amateur.
Exactement. Alors, il a voulu faire l'astronomie professionnelle en rentrant à l'Observatoire de Paris. Il est tombé sur Le Verrier, mais à l'époque, il s'est fait complètement déblayer par Le Verrier. Mais Flammarion a fondé la Société Astronomique de France, qui a suscité de nombreuses vocations. C'est une société savante comme il en existait beaucoup au XIXe siècle. Ça a moins de place aujourd'hui, les sociétés savantes, dans la société, mais ça reste encore absolument nécessaire, pas seulement que pour les jeunes. Je pense que des gens qui sont arrivés en retraite, qui ont acquis beaucoup de connaissances, peuvent se rendre utiles et ont encore envie d'apprendre des choses, et c'est au sein de cette société savante qu'ils peuvent encore cultiver leur savoir.